La première, l'histoire continue.
Bertrand N., Hélène Maquet.
L'élargissement de l'Union constitue sans nul doute le projet politique le plus généreux et aussi le plus prometteur de notre histoire contemporaine.
De tout mon cœur, je dis que nous retournons dans la grande famille européenne.
C'est une histoire de famille, l'histoire d'un mariage, d'une union faite d'espoir, une histoire de destin croisé, une histoire d'évidence.
C'est aussi une histoire compliquée, faite de non-dits et de malentendus, une relation orageuse où chacun a besoin l'un de l'autre, mais où chacun attend de l'autre quelque chose qu'il n'est pas.
C'est l'histoire de l'entrée dans l'Union européenne de la Pologne. En 2003, les Polonais disaient oui par référendum à l'Europe. Ils y entrent pour de bon un an plus tard.
Ce retour à l'Europe des anciens pays du bloc de l'Est était un horizon pour l'Union et pour la Pologne, l'horizon de la paix, de la démocratie et de l'économie de marché.
20 ans après, que reste-t-il aujourd'hui des rêves d'Europe en Pologne et en Europe de l'Ouest? Où est cette relation ternie par de nombreux sujets de discorde?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue, consacré donc à l'entrée dans l'Union européenne de la Pologne. Et la Pologne qui, voici 20 ans, le 8 juin 2003, choisit démocratiquement l'Europe par référendum.
Oui, et cet événement, on en comprend sans doute aujourd'hui la portée, notamment géostratégique, avec le retour de la guerre en Ukraine, sur le continent européen. La guerre en Ukraine est le retour, quelque part, d'une histoire tragique. La Pologne est en première ligne face à la Russie. Elle est devenue vraiment centrale en Europe, la Pologne, dans cette histoire. Au niveau géographique, évidemment, ça l'était déjà, mais aussi maintenant, au niveau politique. La Pologne qui s'est toujours méfiée de la Russie, l'a toujours considérée comme une menace potentielle, et nous mesurons aujourd'hui à quel point l'adhésion de la Pologne à l'Union et puis à l'OTAN était fondée sur une vision finalement peut-être assez lucide du régime de Poutine, un régime impérialiste et militariste. On s'est donc dit qu'il était primordial de revenir sur cette adhésion, l'élargissement qui était actif en 2004, qui a concerné 10 autres pays, qui mériteraient tous une émission à ces autres pays, mais nous avons choisi la Pologne, donc, vu son poids politique actuel dans l'Union.
Oui, on s'est dit aussi que, guerre ou pas, il fallait prendre le temps de reparler de ce processus qui avait l'air évident, mais qui n'allait pas de soi. Les conflits de plus en plus durs entre la Commission européenne et le groupe de Visegrad, les pays de l'Est qui prennent le chemin de l'illibéralisme, suscitent souvent de l'incompréhension entre l'Ouest et l'Est à propos de l'état de droit et de la démocratie, à propos des valeurs fondamentales de l'Europe. Il faut donc prendre le temps de revenir sur le chemin parcouru ensemble pour mesurer l'origine de ces malentendus. Alors, pour en parler avec nous, Olivier Henrion est en studio. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Journaliste ici à la RTBF. Vous vous êtes rendu plusieurs fois en Pologne?
Je me suis rendu deux fois en Pologne, oui. Ces dernières années, à Gdańsk et à Varsovie.
Qu'est-ce qui vous marque là-bas?
Ce qui m'a marqué la première fois, c'est vraiment la différence de culture. Hein, enfin, de culture. On voyait des vieux bâtiments un peu staliniens, on voyait la télévision doublée, on voyait des films en version originale, mais doublée en direct par une seule voix pour les films. C'était assez surprenant. Et puis, après, on se faisait l'image d'un pays, enfin, je me faisais l'image d'un pays assez gris, assez terne, derrière le rideau de fer. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Gdansk, bah, j'ai retrouvé une ville comme on pouvait en voir sur tout le pourtour de la mer Baltique. Ça ressemble à des villes comme on en voit dans les pays baltes ou au Danemark. Mmh. Il y a ce côté, on voit bien que la Pologne a une histoire commune avec l'Union européenne.
Avec nous également, Dorota Bawołek. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste, je crois, indépendante.
Indépendante.
Ici, à Bruxelles, vous êtes d'origine polonaise, enfin, belgo-polonaise ou polonaise encore complètement?
J'ai ma nationalité belge maintenant aussi.
Ah voilà, belgo-polonaise. Donc, vous faisiez quoi, vous, en juin 2003, au moment de ce référendum où la Pologne a donc choisi l'Europe?
J'étais étudiante à l'université de Wrocław, en Pologne. J'ai étudié l'intégration européenne. Ah oui. Donc la politique européenne. Déjà à ce moment-là, je voulais travailler à l'Europe, pour l'Europe. Et j'étais effectivement militant pour ce référendum. Donc j'étais un des participants, des organisateurs de ce référendum. Je fais la publicité pour que les gens viennent voter. Oui.
D'accord, vous nous raconterez ça un peu plus en détail tout à l'heure.
Mais avant ça, on se replonge dans nos archives. Nous sommes en 2003. dans l'est de la Pologne.
En ce début du mois de juin 2003, le soleil envahit les vastes plaines de l'est de la Pologne. Ici, à Radosice, l'horizon semble toujours lointain et les mers d'herbe grasse ondulent sous la brise jusqu'à l'Ukraine. Un vieux cheval tire un chariot de bois fatigué. À l'arrière, un paysan buriné, vieille casquette et bleu de travail élimé. Ils ont connu l'Union soviétique. Brejnev, certainement. Khrouchtchev, sans doute. Et qui sait, peut-être Staline. Le paysan arrête son cheval, remonte difficilement son pantalon et entre dans une maison isolée dans les grandes plaies. Il est venu rendre visite à son voisin, un autre monsieur encore plus vieux que lui. Lui, il a non seulement connu Staline, mais aussi Hitler. Il a connu le régime des deux pires dictateurs du XXe siècle. Il a vu leurs troupes envahir leur pays, le découper, le piller, le massacrer en 1939. Il a connu près de 50 ans de totalitarisme. Le fils du très vieux monsieur est aussi présent. Il sert 3 verres de vodka.
Alors voisin, que penses-tu de l'Union ?
Il faut voter.
Il vaut mieux entrer dans l'Union que d'aller avec Moscou. Avec les Russes, il n'y avait que les kolkhozes. Pendant 60 ans, on a servi Moscou. Maintenant, on nous demande de servir Bruxelles. Et puis quoi après ? Suivre un autre Hitler, peut-être ?
Papa, je te comprends. Tu as vécu trop d'histoires. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir, ne pas s'accrocher au passé.
D'accord pour l'Union, mais il faut qu'on nous dise la vérité. Pas de mensonges. On verra avec le temps. En attendant, buvons à l'Union.
Les verres claquent sur la nappe cirée. Les paysans attrapent un morceau de pain. Radosice s'apprête à choisir son destin. Entre espoir et crainte, dans quelques jours, l'histoire de la Pologne va une nouvelle fois basculer. Le pays s'apprête à se prononcer par référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Une majorité de Polonais semble vouloir l'Europe, attirée entre autres par un avenir meilleur. D'ailleurs, la plupart des partis politiques le souhaitent aussi. Mais beaucoup votent sans illusion et puis, surtout, ils mettent une condition. L'Europe ne doit pas leur enlever leur culture, leur nation et leur religion, le catholicisme. À la messe du dimanche, le prêtre est assez catégorique.
Nous disons oui à l'Europe à condition d'être tous considérés comme frères et sœurs et pas comme esclaves. C'est la raison pour laquelle les curés disent carrément non. Certains pays leaders en Europe mènent une politique beaucoup trop libérale, notamment en matière d'euthanasie et d'avortement. Ils adoptent des lois contraires à la nature humaine. Tôt ou tard, la nature va se venger et l'homme paiera les conséquences. Si on ne respecte pas les valeurs que la Pologne propose à l'Union européenne, alors celle-ci finira par se disloquer. Voyez ce qui est arrivé à l'Empire romain et à d'autres dans l'histoire. Tôt ou tard, l'Union se disloquera.
Le 8 juin 2003, la Pologne dira finalement oui à l'Union à 77% des voix. Le taux de participation atteint 58%. C'était là la principale crainte des autorités que les Polonais se désintéressent de la question. Pourtant, l'entrée dans l'Union est le grand projet, la grande obsession de la Pologne depuis les années 90 et la chute du mur. Rejoindre enfin le destin dont ils ont été privés depuis le traité de Yalta, où Staline et Roosevelt se sont divisés l'Europe en 1945. Yalta, pour de nombreux Européens de l'Est, c'est une trahison occidentale. Voici l'histoire d'un espoir devenu projet, puis une politique. Cela commence le 13 décembre 1997 au sommet européen de Luxembourg.
Bonsoir à tous. Au sommet européen de Luxembourg, les chefs d'État et de gouvernement ont proposé à 11 pays candidats d'entamer des négociations d'adhésion.
Ce jour-là, l'Europe accepte de lancer des négociations d'adhésion avec une dizaine de pays. La Pologne, donc, mais aussi Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie. 12 pays, mais pas la Turquie, qui est traitée un peu à part. Pour l'Europe, de la fin des années 90, la guerre froide est définitivement terminée. Le Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, annonce même un processus irréversible.
Dès le départ, il y a eu une conscience dans l'Union européenne qu'après la fin de la guerre froide, il y avait une chance unique de mettre fin à la scission entre Est et Ouest et qu'il fallait intégrer ces pays d'Europe centrale dans l'Union européenne.
La guerre froide est finie depuis 10 ans quand même.
Pourquoi maintenant? Oui, mais donc, disons, le processus d'élargissement a pratiquement été déclenché en même temps et a été officialisé au Conseil européen de fin 97. Et moi, j'ai dit dès ce moment-là qu'on était dans un processus irréversible. Et je trouve d'ailleurs une bonne chose qu'on ait aussi mis fin à cette distinction un peu artificielle entre les 12 pays candidats.
Un élargissement qui donne le vertige. L'Europe passerait donc de 15 à 27 membres. Les questions pleuvent. Comment faire face aux différences culturelles, économiques et démocratiques entre tous ces pays? L'Europe ne risque-t-elle pas de devenir inefficace, une grande zone économique? Et surtout, l'Europe ne risque-t-elle pas d'être vidée de son sens? Dans le débat dominical de la RTBF, mise au point, fin 1999, la plupart de ces questions restaient sans réponse.
Effectivement, il y a une grande différence dans la tradition, en termes de culture politique notamment, qui sont susceptibles de poser des problèmes. Il s'agit réellement de refonder.
Je pense tout de même qu'il faut qu'il y ait une très sérieuse préparation, de part et d'autre. De part et d'autre, sinon les déceptions seront grandes.
Et puis, jusqu'où s'arrêter? 12 pays, mais pourquoi pas la Turquie? Et pourquoi pas même, et oui, la Russie?
L'Europe doit quelque part accueillir dans son sein les peuples et les États qui aspirent à y entrer parce qu'ils aspirent à faire partie d'une oasis de paix et de démocratie et de développement économique. Et je pense que c'est une réponse et c'est un défi que l'Europe doit apporter et je ne veux pas fixer ses frontières.
La question d'un rapport avec le reste de l'Europe, c'est vraiment une question de taille. La Russie n'accepterait jamais de ne pas être un des pôles du monde. Or, tout de même, le présupposé de tous les pays qui composent l'Europe, c'est qu'ils ont accepté, avec plus ou moins de bonne volonté, mais ils ont accepté de n'être un pôle du monde qu'à l'intérieur de l'Europe.
Je pense qu'il faut avoir plus de créativité, de trouver des formules où on a alors des degrés d'association entre cette Europe et ce qui...
Absolument, il n'y a pas que l'adhésion.
Et je prends l'exemple de ce que l'OTAN a fait avec la Russie. Et il est clair que l'Union européenne doit avoir avec la Russie des liens privilégiés.
Là aussi, toutes ces questions restent sans réponse. L'élargissement européen est un saut dans le vide. Cette perspective suscite son lot d'enthousiasme, donc, mais charrie aussi son lot de craintes. En Pologne, comme en Europe de l'Ouest. En Belgique, la crainte, c'est le dumping social, ce qu'on appellera bientôt le syndrome du plombier polonais.
Par certains de ces aspects, l'élargissement fait peur aux populations européennes. Elles craignent le dumping social, elles craignent que les pays de l'Est ne drainent une main-d'œuvre bon marché. Ainsi, on estime que 20 000 Polonais travaillent illégalement à Bruxelles. Ils sont en grande majorité issus de Białystok, une région pauvre du Nord-Est, surnommée la Petite Belgique.
À la fin des années 90, l'entrée dans l'Union de la Pologne et d'une dizaine de pays de l'ancien bloc de l'Est apparaît comme une garantie de paix et pas comme un risque potentiel de confrontation avec la Russie. Moscou s'enterre dans la grisaille et la vodka des années Helsinki. L'ours russe n'apparaît plus comme menaçant. La guerre froide est terminée pour l'Ouest. Mais dans l'Est, les choses sont beaucoup moins claires. Poutine arrive au pouvoir en 2000, mais en 2001, un an plus tard, on apprend qu'il a envoyé des armes nucléaires à Kaliningrad, qui deviendra bientôt une enclave russe dans l'Union, coincée entre la Pologne et la Lituanie.
Kaliningrad reste une base importante dans le dispositif militaire russe. L'an dernier, un journal américain affirmait, sans toutefois le prouver, que Moscou avait disposé de nouvelles ogives nucléaires dans la zone. Avec son statut économique spécial, Kaliningrad a pourtant tous les atouts pour devenir le Hong Kong de la Baltique. Mais elle pourrait tout aussi bien se transformer en un abcès permanent au cœur même de l'Union européenne, un abcès qui pourrait éclater à tout moment.
L'envoi d'armes nucléaires par Vladimir Poutine est un geste hostile, mais il apparaît comme une préoccupation mineure à l'époque. L'Europe est sûre d'elle. Il y a là comme un destin, une justice. L'Europe réunifiée. La guerre s'éloigne. Pourtant, en 2003, quelques mois avant l'entrée officielle de la Pologne et des autres pays de l'Est, c'est une autre guerre qui va ternir la réunification.
Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine. C'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir.
Les missiles Tomahawk éclairent la nuit de Bagdad et l'Europe, pas encore réunifiée, se déchire déjà. La plupart des pays de l'Est soutiennent les États-Unis avec le Royaume-Uni et l'Espagne. Mais la France, l'Allemagne et la Belgique notamment dénoncent l'agression armée des Américains. La vieille Europe méfiante s'oppose à la jeune Europe pro-américaine.
Les dirigeants de la Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et du Danemark, membres de l'Union, mais aussi de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque, pays candidats, se démarquent de l'axe franco-allemand. Vieille Europe contre jeune Europe, selon l'expression du secrétaire américain à la défense Donald Rumsfeld, ce sont les divisions des Européens qui apparaissent noir sur blanc. Tony Blair a échoué dans ses tentatives de convaincre les Allemands et les Français du bien fondé d'une offensive militaire en Irak, mais il y a les autres, Silvio Berlusconi en tête, et les anciens du bloc de l'Est.
Une ligne de fracture apparaît, au grand jour. Les liens très forts de la Pologne avec l'Amérique semble parfois plus profond que les liens avec l'Europe. À Varsovie, devant l'ambassade américaine, la file est longue pour décrocher un visa. Ici, l'Europe ne fait déjà plus rêver.
Ça n'a pas d'importance qu'on entre dans l'Europe ou pas. De toute façon, on ira aux États-Unis, c'est notre seconde patrie.
Ma maman, qui avait des cousins lointains là-bas, m'en parlait souvent comme d'un conte de fées. L'Amérique est un conte de fées où on vit plus facilement. C'est comme un rêve.
Au-delà du rêve américain de beaucoup de Polonais, c'est l'idée d'une Europe intégrée qui semble compliquée. La majorité des Polonais veut rester une nation et ne veut pas d'un super État européen, surtout pas un État dominé par le couple franco-allemand.
Je comprends qu'il lui est difficile d'admettre qu'il y a un nouvel ordre dans l'Europe. La France et l'Allemagne, qui sont historiquement deux pays très importants, doivent apprendre qu'il y a d'autres pays aussi importants et qu'il faut compter avec un pays comme la Pologne.
Le sentiment d'un malentendu commence à pointer. Entre Ouest et Est, avons-nous vraiment la même idée de l'Europe, les mêmes espoirs, le même rapport à la nation? Pourtant, le 16 avril 2003, au pied de l'Acropole, à Athènes, les 25 se retrouvent pour une photo de famille. Les anciens et les futurs nouveaux pays sont là pour signer le traité d'adhésion officiel. Le symbole est clair, devant un monument célébrant la naissance de la démocratie et de la civilisation en Europe, il s'agit de célébrer l'unité. L'unité malgré tout, l'unité contre tout, les discours sont historiques. Guy Verhofstadt, premier ministre belge, parle de repousser l'horizon.
L'élargissement de l'Union constitue sans nul doute le projet politique le plus généreux et aussi le plus prometteur de notre histoire contemporaine. Nous avons ensemble relevé un défi exaltant, celui, je crois, de repousser l'horizon d'un espace de démocratie et de prospérité partagée.
Jacques Chirac, président français, lui aussi convoque la grande histoire.
Ce n'est pas seulement l'élargissement de l'Europe que nous célébrons, c'est son unification. 450 millions d'Européens vont se rassembler dans le plus vaste projet d'intégration jamais entrepris dans le monde par des voies pacifiques.
Le 8 juin 2003, un peu plus de la moitié des électeurs polonais se déplacent donc dans les bureaux de vote et choisissent l'Union. Le président, Aleksandr Kwasniewski, est soulagé. Les ultra-conservateurs qui militaient contre l'Union ont perdu et il a gagné. Devant un pupitre flanqué de l'aigle blanc polonais, il annonce le retour dans la famille.
C'est un grand moment et un grand événement. Les Polonais, de la manière la plus démocratique qui soit, ont dit oui à l'Europe. Nous pouvons dire que nous retournons dans l'Europe. Même plus, de tout mon cœur, je dis que nous retournons dans la grande famille européenne.
2 ans plus tard, le parti du Premier ministre Kwasniewski est pourtant balayé par le parti Droit et Justice, un parti conservateur et eurosceptique qui fait valoir les droits de la nation polonaise contre le gouvernement de Bruxelles. Ce parti est encore aujourd'hui au pouvoir et la relation est plus compliquée que jamais.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Et on retrace aujourd'hui ce chemin qui revient depuis le référendum de 2003, il y a 20 ans, sur l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, à aujourd'hui. Alors, Dorota Bawoek, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, vous étiez en Pologne en 2003, vous nous expliquiez que vous étiez encore étudiante à l'époque, militante pour l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Vous avez donc vécu ce moment de l'intérieur, ce choix de 2003 qui va conduire la Pologne un an plus tard à rejoindre l'Europe. Vous vous en retenez quoi comme souvenir ?
Oh, surtout quand les résultats des référendums étaient annoncés, on a vraiment fait la fête avec tous les étudiants en Pologne. Et on avait beaucoup d'espoir. On a vraiment pensé qu'à partir de maintenant, notre vie va changer, beaucoup. Et notre niveau de vie va améliorer, va augmenter. Et c'est effectivement ça qui s'est passé.
Ça veut dire que vous n'y alliez pas fondamentalement pour la démocratie, pour les grands enjeux géopolitiques. C'était avant tout, quelque part, votre quotidien, votre vie qui pesait dans ce choix d'adhésion à l'Union européenne.
Oui, je pense que c'était vraiment surtout la question d'économie. Et ça reste... Mais c'est vrai... Pour les jeunes comme moi, les autres avantages étaient autant importants. Et on voulait vraiment aussi voyager à l'étranger et découvrir les autres pays qui étaient très difficiles avant. Et donc moi-même, tout de suite, je suis partie en Angleterre, donc, où j'ai continué à étudier journalisme, en fait.
Dorota Bawoek, l'idée, c'est donc que la prospérité était sans doute un des éléments clés, pas seulement la liberté, vous en avez dit aussi, c'est important, la démocratie, mais sur la prospérité, vous retournez encore souvent en Pologne, ça a vraiment tout changé en 20 ans ?
Oui. Il y a des grands changements qu'on peut voir à l'œil nu. Pour donner quelques chiffres, les salaires minimum en Pologne a plus que doublé. Donc, ah oui. les salaires minimum en 2004 par rapport à maintenant, c'est 130% de plus en fait qu'on gagne en Pologne maintenant. Les infrastructures étaient totalement modernisées grâce aux fonds européens. Et donc, on avait ce problème surtout de la médiocrité du réseau de communication en Pologne.
Donc, par exemple, les trains, etc., les téléphones, etc.
Effectivement. Et avec les fonds européens, donc, on a abaissé cet obstacle. En fait, j'ai quelques chiffres. Près de 15 000 kilomètres d'autoroutes, des voies rapides et d'autres routes étaient construites ou modernisées. Quelques 4 000 kilomètres des lignes ferroviaires ont été construites en Pologne. Aussi, plus que 7 000 kilomètres de conduits d'eau, 450 nouvelles stations d'épuration ont été construites. Donc, les fonds européens ont vraiment aidé à moderniser la Pologne.
Parce qu'Olivier Henrion, c'est ça qui s'est passé avec l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Il y a des milliards d'euros d'aide qui vont se déverser sur Varsovie.
En fait, il faut savoir que dans le budget européen, il y a deux principaux postes. Il y a l'agriculture, hein, pour la politique agricole commune, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la politique régionale. Ces deux gros postes, c'est en gros les deux tiers du budget européen. Et la Pologne est le principal bénéficiaire de ces deux postes. D'ailleurs, ça faisait un peu, on n'en a pas entendu parler jusqu'à présent, mais ça faisait un peu peur à des pays
la comme la question de l'agriculture,
la France,
c'était important.
Exactement, ou l'Espagne, qui allait voir une partie de leurs ressources détournées vers la Pologne. Et effectivement, bah aujourd'hui, comme l'a dit Dorota, on voit que c'est un vrai succès. Une preuve que c'est un succès. En 2009, tous les pays de l'Union européenne sont en récession. Un seul pays de l'Union européenne est au-delà, continue à avoir des chiffres de croissance positive, c'est la Pologne. Et même au moment de la crise qu'on vient de passer, la crise sanitaire, la Banque mondiale nous dit que la Pologne est le pays qui a le mieux résisté à cette crise sanitaire et à ses conséquences économiques. Donc oui, avec tout cet argent qui s'est déversé de l'Union européenne, la Pologne en a fait un succès économique.
La Pologne, c'est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir enregistré une seule année de récession en 19 ans, en fait.
Et ça, c'est clair pour les Polonais aujourd'hui que c'est grâce, en partie, à l'Union, parce qu'on va y venir évidemment, mais on sait que la relation est compliquée. Est-ce que c'est perçu comme ça ?
Je pense que les gens ils se rendent compte, mais peut-être ils ont quand même la tendance d'un peu oublier, ça devient la normalité.
Oui, c'est comme en Belgique aussi, on ne voit pas toujours ce que l'Europe fait pour la Belgique.
En même temps, il y a quand même beaucoup de citoyens qui profitent des fonds européens directement. Et il y a beaucoup de chômeurs qui ont reçu l'argent de l'Europe. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient améliorer leurs compétences avec les projets européens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il faut dire que les Polonais, ils ont un grand esprit d'entreprise, en fait. Mmh. Et il y a vraiment milliers de citoyens polonais qui ont profité, qui ont bénéficié des fonds européens pour créer leur entreprise.
Alors, c'est quand même intéressant ce que vous dites. On peut parler d'un malentendu entre l'Union européenne et la Pologne, d'abord un malentendu, et c'est un peu ce que vous dites, au sein de la Pologne elle-même, il y a un paradoxe, le Pew Research Center a récemment sondé l'opinion publique polonaise, l'opinion publique polonaise à 72%, elle est favorable à l'Union européenne, alors que par exemple en France, l'opinion publique est favorable à 38% à l'Union européenne. Mais dans le même temps, le gouvernement polonais est un des plus eurosceptiques en Europe. Olivier Henrion, c'est quand même un paradoxe.
Oui, c'est un paradoxe, mais on en voyait déjà les germes. Dans le reportage, évoque au tout début ce référendum. Je me souviens de cette scène avec ces paysans. Et on voit bien qu'il y a une partie de la population qui est quand même assez sceptique, et notamment les paysans. Et c'est sur cette population que va s'appuyer le parti au pouvoir aujourd'hui, le parti Droit et Justice, qui n'est pas complètement europhile, loin de là.
Mais pas non plus pour la sortie de l'Europe.
Non, ils voient les avantages. Ils voient clairement les avantages que l'Europe a pu leur apporter. Mais ils n'ont pas envie de se laisser embrigader par un nouvel impérialisme franco-allemand, comme c'est dit dans le reportage. Et il y a chez les Polonais une volonté de s'émanciper et de redevenir le grand pays que la Pologne a été au 19e siècle, et de peser de tout son poids, pas en reniant ses valeurs, pas en reniant son histoire, comme on l'a entendu dans le reportage.
Oui. Dorota Babowek, comment vous voyez ce problème-là ? Parce que la Pologne veut revenir une grande nation, elle veut s'émanciper de la Russie. On entend ce paysan au début dire « Mais moi, je ne veux pas non plus un nouveau Hitler en Europe ». Et c'est quand même des phrases qu'aujourd'hui, on entend même de la part du Premier ministre polonais, qui n'hésite pas à dire que l'Europe est en train de redevenir une sorte de nouveau super-État en Europe et que la Pologne n'en veut pas. Vous qui êtes europhile, vous avez choisi l'Europe au moment du référendum, comment vous voyez ce paradoxe ? Est-ce qu'on peut vouloir l'Europe et en même temps vouloir être une grande nation indépendante ?
Oui, moi je pense que la vision polonaise ressemble un peu à cette vision anglaise qui s'est mal finie.
Ah oui, et qui s'est mal finie, oui.
Et donc les Polonais, ils veulent l'Europe des nations où vraiment on garde nos traditions, nos valeurs.
Il n'y a pas de culture européenne par exemple ?
C'est quoi la culture européenne? Tout à l'heure, dans le reportage, excusez-moi d'interrompre, on dit qu'il y a effectivement peut-être une fracture qui existe entre l'Est et l'Ouest.
Oui.
On pourrait dire la même chose entre le Nord et le Sud. La vision économique de l'Europe n'est pas la même en Allemagne ou au Danemark qu'en Italie ou au Portugal. Donc, les divisions existent en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas plus ou moins européen. On est, voilà.
Oui. Je reviens à ça. Une phrase du Premier ministre, Mateusz Morawiecki, j'espère que je prononce
très
plus
bien.
Ou moins bien. Ah bah c'est bien, parce que mon polonais n'est pas excellent. Et donc, il a dit, c'était lors d'une conférence à Heidelberg qui a été reproduite dans cette excellente revue, Le Grand Continent, la vision d'une Europe centralisée, dit donc le Premier ministre, hein, se terminera exactement au même endroit que le concept de fin de l'histoire annoncé il y a 30 ans. C'est-à-dire, en gros, la fin de l'Union soviétique. Il dit, cette Europe centralisée, ça va terminer comme l'Union soviétique. Et c'est intéressant parce que le curé qu'on entend dans l'histoire au début dit exactement la même chose il y a 20 ans. C'est quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est profond dans cette relation à l'Europe. On ne veut pas de l'Europe centralisée en Pologne.
Non, on veut l'économie où on profite des marchés en commun. Mais chacun garde ses valeurs. En cas de Pologne, c'est les valeurs chrétiennes, conservateurs, que le gouvernement ne veut pas renoncer. Parce que les gouvernements et les hommes politiques en Pologne sont très dépendants de l'Église. C'est peut-être ça que vous pouvez
trouver
intéressant. Mmh. Donc, en Pologne, l'Église, ce n'est pas juste une institution religieuse, mais vraiment, elle joue les rôles politiques. C'est lié en histoire, parce que déjà, pendant le communisme, c'était les prêtres qui ont aidé les mouvements de résistance. C'est eux qui ont caché tous ces militants aux paroisses.
Notamment grâce à Jean-Paul II, évidemment, qui a aidé Solin Arnos.
Voilà. Ouais. Jean-Paul II, c'était un de ces prêtres, après plus que prêtre, qui a joué un rôle énorme dans le renforcement du régime communisme. Le problème, c'est que même après, quand la Pologne est devenue démocratique, l'Église n'a jamais renoncé à ce rôle. Et donc, les prêtres polonais, pendant leurs sermons, ils font de la politique chaque dimanche. Et c'est eux qui disent qu'il ne faut pas être pour l'avortement. C'est eux qui disent que le mouvement LGBT, ce n'est pas bien. Ils ont tellement de puissance sur la population. Les hommes politiques sont obligés aussi de répéter ce qui est dit à l'Église.
Olivier Henry, on entend l'impact de l'Église sur la politique. Est-ce que, par ailleurs, au niveau politique, il y a eu une crainte d'être sous-estimé, d'être mal considéré par les autres pays de l'Union? Est-ce que les Polonais se sont sentis pris de haut par notamment les Français et les Allemands?
Alors, je ne sais pas si eux se sont sentis pris de haut, mais en tout cas,
vous les avez vus
moi,
pris de
je
haut.
Les ai sentis pris de haut, oui, effectivement. Un exemple, on a évoqué dans le reportage la guerre en Irak, hein, ouais. 2003, avec cette division entre l'Est et l'Ouest, effectivement.
Enfin, bon, il y avait aussi l'Italie, l'Espagne, le Portugal.
Exactement.
C'est très compliqué, comme toujours en Europe.
Mais à l'époque, clairement, la Pologne se met sur le même rang que la Grande-Bretagne, l'Espagne ou le Portugal, aux côtés des Américains. Ce qui a le don d'énerver Jacques Chirac, qui, dans un sommet, je crois que c'est en janvier 2003, peste contre ces pays, il accuse ces pays de ne pas avoir été bien élevés, un peu inconscient du danger que comportait un alignement trop rapide sur les USA, et il conclut superbement en disant qu'ils ont perdu une belle occasion de se taire. Ça, c'est quand même assez clair qu'il y a une vision assez condescendante. Mais après, tout à l'heure même dans le reportage, quand on entend Guy Verhofstadt dire que cet élargissement, c'est l'acte le plus généreux, on peut aussi voir une certaine condescendance quelque part. Bien sûr qu'il y a la générosité, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on a élargi l'Europe aux autres pays.
Oui, il y avait aussi un intérêt pour nous.
Il y avait aussi un intérêt économique, il y avait aussi un intérêt géopolitique. Et une dernière chose, ne serait-ce qu'appeler ces pays qui ont rejoint l'Union européenne les nouveaux États membres. La jeune Europe, exactement. Les nouveaux États membres. Comme si ces pays, ils venaient tout juste de sortir depuis lorsqu'ils sont arrivés dans l'Union européenne. Tout ça montre qu'effectivement, il y avait une certaine condescendance. Et même au sein des institutions européennes, je me souviens, à l'époque, je travaillais dans les institutions européennes, de voir ces fonctionnaires qui arrivent, qui sont un petit peu habillés différemment. On va pas leur donner tout de suite un poste, une position. On leur dit, mais qu'est-ce qu'ils sont là? Ils doivent apprendre avant. Et il a fallu un bon moment avant que les Polonais occupent des places importantes, comme président du Parlement européen. C'est un Polonais qui a occupé ça pour la première fois en 2000, je ne sais plus d'ailleurs, 2007, je crois.
Dorota Bawoek, vous vouliez, je voyais réagir.
Non, je voulais juste dire qu'effectivement, cette phrase de Jacques Chirac est connue en Pologne. Si Jacques Chirac est connu en Pologne pour quelque chose, pour une
c'est
phrase,
pour ah, oui.
C'est cette phrase où il a dit que la Pologne a perdu la chance à se faire taire.
Ah, oui.
Voilà. C'était tellement mal pris que dès qu'on s'intéresse un petit peu sur la politique européenne en Pologne, on sait que c'était Jacques Chirac qui a dit ça, tellement il a touché à la fierté de la Pologne, à l'espoir qu'on est les mêmes que les autres. Là, il nous a clairement montré que non, vous n'êtes pas les mêmes.
Il est resté célèbre en Palestine pour « This is not a method », et là, il est resté pour ça. D'accord. Ouais. Peut-être, Dorota Bawoek, pour terminer sur ce malentendu, et puis on parlera de la géostratégie de la Russie, c'est évidemment important. Vous pensez, vous, qu'on peut dépasser de telles divisions, parce qu'on voit sur l'état de droit, en particulier, qu'il y a un conflit qui n'est toujours pas réglé entre la Commission et quand même beaucoup d'États membres, et plusieurs pays dits du groupe de Visegrad qui sont de plus en plus dans l'illibéralisme, mais en particulier la Pologne. Vous pensez qu'on peut dépasser ça? Vous êtes une optimiste, vous qui êtes quand même europhile.
Bon, écoutez, il y a les élections en Pologne en octobre,
oui,
cette année. Bon, j'espère que peut-être la situation va changer. Mais je pense que c'est les institutions européennes qui ont aussi leur rôle à jouer. Et je pense qu'on a, découvert, à cause de la Pologne, de Hongrie, qu'il n'y a pas des outils qui marchent, qui sont efficaces pour contrôler, pour arrêter les pays qui commencent à tourner vers d'autres régimes que les régimes démocrates. Bon, en même temps, c'est vrai que personne imaginait, au moment que l'Union européenne était créée et les traités étaient faits, qu'un des membres de l'Union, à un moment, ils vont détourner tous les valeurs et tous les fonds.
Oui, on n'imaginait pas ça, mais il y avait quand même des éléments qui s'allumaient déjà il y a 20 ans, on a entendu, dans les différents récits. Olivier Henry, peut-être.
Oui, juste pour revenir sur cette question de l'état de droit, c'est vrai que l'Europe n'était pas équipée. On a mis en place cette procédure de l'état de droit qui est bloquée pour de sombres questions d'unanimité au Conseil. Mais il y a d'autres outils qui ont vu le jour récemment et qui portent un petit peu leurs fruits. Je pense notamment à au mécanisme de conditionnalité qui dit qu'en fait, pour pouvoir toucher l'argent européen, il faut justement respecter cet état de droit.
Et ça n'est pas bien pris par le droit et justice, cette affaire.
Ça n'est pas bien pris ni par la Pologne ni par la Hongrie, d'autant que dans le même temps, il y a le fameux plan de relance européen post-Covid, par exemple, c'est 750 milliards d'euros au niveau européen. La Pologne devait toucher 35 milliards d'euros, elle n'a toujours rien touché. La situation est en train de se débloquer tout doucement, peut-être plus pour la Pologne que pour la Hongrie. Et la guerre en Ukraine n'y est pas pour rien. La guerre en Ukraine a certainement changé les choses parce que la Pologne a joué un rôle considérable.
Et il faut maintenant, effectivement, qu'on aborde ces questions géostratégiques. Ce qui marque, quand on se replonge dans les archives de l'époque, c'est que la dimension géostratégique de l'élargissement à la Pologne et aux autres pays de l'Est, elle est surtout liée, on l'entendait, à l'enclave de Kaliningrad. Au mieux, c'est vu comme un problème pour la Russie, plus que pour l'Europe. Désormais, avec la guerre en Ukraine, le rôle de la Pologne dans l'Union change complètement, Dorota Bawoek.
Oui, pour la première fois, les hommes politiques à Bruxelles admettent qu'on n'est pas russophobe. Jusqu'à maintenant, on s'est fait toujours traiter, y compris moi-même, de russophobe. Chaque fois qu'on a expliqué qu'attendez, il faut faire attention à la Russie, il faut peut-être pas construire cette Nord Stream parce qu'on s'est
rendu. Donc c'est le pipeline, qui passait dans le nord de l'Allemagne.
Voilà, on s'est toujours traité de russophobe. Et après la guerre a commencé, c'est la première fois que Ursula von der Leyen elle-même, pendant son discours au Parlement européen en septembre 2022, il dit c'est nous qui s'est trompé, il fallait écouter les Polonais, il fallait écouter les pays baltes, il avait raison, il fallait pas faire confiance à la Russie. Donc notre réputation est améliorée, voilà, on a des reconnaissances. Mais aussi, je pense que la Pologne joue un rôle très, très important. Moi, je pense que le fait que les Ukrainiens ils se battent encore, c'est grâce à la Pologne. C'est la Pologne derrière toutes les initiatives humanitaires, militaires, bon, tous les fournissants d'armes, les sanctions. C'est vraiment la Pologne et les pays de l'Est qui poussent la vieille Europe, les restes membres de l'Union européenne, pour procéder, pour faire, pour aider, pour ne laisser pas tomber l'Ukraine.
Oui, Olivier Henrion, là-dessus, on sent évidemment qu'il y a aussi des différences d'approche entre Paris, Berlin, sur la guerre en Ukraine, et la Pologne, qui est plutôt à y aller, de soutenir l'allié ukrainien très fort, avec notamment peut-être parfois plus d'égards pour Joe Biden quand il vient à Varsovie que pour les autres alliés européens. On a l'impression qu'on retrouve un peu la guerre en Irak.
Ah, c'est exactement la même fracture que pour la guerre en Irak, parce que la base est la même, c'est-à-dire que ces pays de l'ancien bloc d'Europe de l'Est sont très atlantistes. Pour eux, la sécurité sur le territoire européen, elle vient du parapluie nucléaire américain et pas d'une hypothétique défense européenne. D'ailleurs, la Pologne fait aussi partie de l'OTAN. C'est même un des meilleurs élèves aujourd'hui dans l'OTAN pour les dépenses militaires. Je crois que 5% des dépenses, 5% du PIB sont consacrés aux dépenses militaires en Pologne. Ça va être même la principale armée de l'Union européenne, 300 000 soldats, une armée qui s'équipe essentiellement aux États-Unis, en chars Abrams, en avions de combat F-35, plus qu'au niveau européen, parce que l'Amérique est vue comme le pilier de la défense, de la protection polonaise. Et on l'a bien vu en guerre en Ukraine. C'est avant tout vers les Américains que les Polonais se sont tournés. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas au niveau européen, mais dans un moindre niveau, disons.
Dorota Bawoek, la guerre en Ukraine, elle a renforcé la position de la Pologne en termes géostratégiques et peut-être même au-delà de l'Union européenne.
Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on est vu, on est reconnu comme un pays expert qu'il faut écouter.
Politiquement aussi, par rapport aux autres chefs d'État, par exemple le Premier ministre polonais, à retrouver un rôle plus central.
Oui, mais en même temps, les hommes politiques européens, ils n'oublient pas les problèmes de l'État de droit. Hein. Ouais. En fait, c'était Didier Reynders qui a tout de suite dit, déjà en juin, qu'il ne faut pas imaginer que parce que les Polonais aident des réfugiés ukrainiens, ils vont avoir ces fonds européens bloqués à cause de l'État de droit.
Olivier Henrion.
C'est exactement ce que je veux dire. Oui, ça a renforcé la position de la Pologne. Oui, mais il y a la question de l'État de droit qui reste un gros caillou dans la chaussure des Polonais et des Européens. Et la plupart des pays de l'Union européenne ne vont pas laisser passer cette question-là, la mettre sous le tapis.
Bon, on voit si dans 20 ans on refait une émission pour voir ce qui a évolué dans la relation, et j'espère évidemment positif, entre l'Union et la Pologne. Pas de polexit quand même. Hein, puisque vous avez cité la Grande-Bretagne tout à l'heure. Merci Dorota Bawoek d'avoir été avec nous. Hein. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante ici à Bruxelles. Et merci Olivier Henrion. Bon, on va vous représenter quand même. Hein, journaliste évidemment ici à la rédaction de la RTBF, rédaction Europe. Merci. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la SONUMA, une émission réalisée par Bawandine.